Vous écoutez France Culture.
Comment vont les adolescents? En septembre, l'UNICEF France a dressé un tableau très inquiétant et parle d'un grand malaise. Plus d'un tiers des 6-18 ans est en situation de souffrance psychologique. 28% a déjà pensé au suicide et 1 sur 10 a même déjà essayé de se suicider. Un constat terrible, difficile à comprendre. L'UNICEF avance tout de même des causes à ce mal-être. Et parmi elles, la situation de privation matérielle. Il y aurait, d'après l'UNICEF, je cite, un cumul des inégalités, puisque les inégalités sociales se traduiraient en difficultés d'intégration sur tous les plans. Ce constat résonne avec une autre étude de l'INSERM, cette fois parue au début de ce mois, et qui établit un lien entre le chômage et le suicide. Près de 600 suicides en France entre 2008 et 2010 seraient liés au chômage. Je dis bien « seraient », puisque les chercheurs insistent aussi pour dire qu'il n'y a pas et qu'il faut faire très attention à ces effets et ces relations de causalité. Mais tout de même, comment comprendre alors ce mal-être des adolescents et des jeunes pour mieux y répondre aujourd'hui dans l'Europe de 2015? Quels sont les effets de la crise économique sur ce phénomène? Et Internet, dont on a parlé à l'occasion de terribles suicides d'adolescents harcelés sur les réseaux sociaux, peut-il à l'inverse aujourd'hui devenir un lieu privilégié de prévention? Avec nous ce matin pour tenter d'apporter des réponses et des éclairages à toutes ces questions, depuis Avignon, Hakima Aït El-Kadhi, sociologue, anthropologue et spécialiste de l'adolescence. Et puis avec nous en studio à Paris, Philippe Jamet. Bonjour Philippe Jamet.
Bonjour.
Psychanalyste, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 5 et auteur de « Grandir en temps de crise, comment aider nos enfants à croire en l'avenir », paru chez Bayard au mois de mars dernier, et également président de l'école des parents en Île-de-France, dont on donnera les coordonnées sur le site. Le titre exact, c'est École des parents
et des éducateurs d'Île-de-France.
Et des éducateurs. Et puis, avec nous également ce matin, Patrice Huert. Bonjour Patrice Huert.
Bonjour.
Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, spécialiste des adolescents. Auteur, lui, de Parents adolescents, des interactions au fil du temps avec Laurent Renard, publié chez RS en 2014, ou encore un livre publié en 2013, La France, éternelle adolescente, et si on l'a laissé grandir, avec Mathieu Laine chez Jean-Claude Lattès. Messieurs, d'abord peut-être un chiffre qui, en préparant cette émission, n'a pas laissé de me surprendre. Est-ce un chiffre, si j'ose dire, normal, habituel, récurrent, ou faut-il s'en inquiéter? On note qu'il y aurait près de 200 000 tentatives de suicide prises en charge chaque année par les urgences hospitalières. Est-ce que ce chiffre général est le bon, Philippe Jamet?
C'est pas nouveau. On a plutôt d'ailleurs une petite décroissance actuellement. Alors, tentative de suicide, vous voyez, c'est un très très vaste spectre aussi. Qu'est-ce qu'on entend par cette tentative? Bon, il y a des situations de gravité extrêmement différentes, mais c'est vrai que c'est un mode d'expression de l'impasse, je crois, plus que de souffrance, de l'impasse dans le qui est une source de souffrance, mais de l'impasse de ces ados dans un certain nombre de cas.
Alors, le rapport de l'UNICEF sorti en septembre, Patrice Huert, Adolescents en France, le grand malaise, c'est le titre de ce rapport. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et comment voyez-vous ces jeunes qui semblent donc aller si mal? Patrice Huert.
Je crois qu'il faut qu'on se méfie beaucoup d'un travers contemporain qui s'accentue, qui consiste à placer le projecteur sur une zone localisée pour susciter un émoi localisable dans une période qui inquiète pas mal de contemporains et qui vont chercher la cause à leur malheur ici ou là. Et que du coup, on n'ait plus la capacité d'envisager la complexité du phénomène, comme Philippe Jamet vient de le dire, entre avoir des idées suicidaires très transitoirement, ce qui fait partie du parcours adolescent, et passer à l'acte suicidaire et y parvenir, il y a un fossé tout à fait considérable. Donc méfions-nous de cela. L'autre élément dont il faut se méfier, c'est de penser que ce que l'on connaît aujourd'hui, dans une époque qui privilégie le rapport au présent, n'aurait jamais existé et qu'il y aurait une sorte de mutation qui aboutirait à ces chiffres très inquiétants, comme si ce problème n'avait jamais existé. Et là, j'aimerais essayer de faire quelques retours en arrière pour montrer cela.
Allez, je vous en prie. Alors, les retours en arrière, on peut les faire notamment en illustrant regardez le cinéma, Europe 51. Roberto Rossellini débuté dans une famille bourgeoise, sans problème, par, hélas, le suicide d'un jeune garçon.
He's only one year older than Michel,
Last year he flew all the way from Boston and back by plane.
He flew across the Atlantic, and weren't you afraid to let him go?
Oh, no, he loves airplanes.
All this is well and good, but don't forget that during the war, while George was in the army, Michelle and I spent 5 years running all over England dodging air raids.
Madam, quick! Michelle is hurt!
Where?
He fell down the stairs!
Europe 51 de Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman. Peut-être pour faire justement ce retour en arrière que vous souhaitez faire, vous, Patrice Huber, et une mise au point. Oui, qu'est-ce qu'il faut déceler et dire du phénomène d'aujourd'hui, mais surtout de sa prise de conscience?
Je crois que ce n'est pas nouveau. Et le retour en arrière, si vous me le permettez, j'irai encore plus loin. Je retournerai par exemple à René de Chateaubriand, ce héros romantique qui sombre dans la mélancolie. Chateaubriand souhaitant donner en exemple la manière de sortir de cet état mélancolique après le passage de René en Amérique. La fin de ce roman a été complètement gommée et a donné l'idée à une génération adolescente de l'époque que la mélancolie, l'humeur sombre faisait partie du paysage nécessaire. Tout cela dans une société qui, elle-même, est une société très particulière. Ça va aboutir au fait qu'une vingtaine d'années plus tard, Chateaubriand va, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, regretter d'avoir écrit René, puisque dans la période entre 1826 et 1835 à peu près, on va voir une augmentation soulignée très importante des tentatives de suicide des jeunes. Dans un monde plein, dans un monde de crise, le mal du siècle, comme c'était nommé, et avec une grande inquiétude sociétale concernant le suicide des jeunes. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et je voudrais juste citer, si vous me le permettez, ce que Chateaubriand dit quelques années plus tard. « Si René n'existait pas, je ne l'écrirais plus. S'il m'était possible de le détruire, je le détruirais. Il a infesté l'esprit d'une partie de la jeunesse et fait que je n'avais pu prévoir, car j'avais au contraire voulu le corriger. » Vous voyez, donc on a là quelque chose qui a marqué déjà l'époque dans une période de crise.
Oui. Alors, cela dit quand même, si j'en vois les chiffres, le suicide serait la première cause. Je vous demande si vous les confirmez ou pas ces chiffres, mais a priori, ils viennent du ministère de la Santé. Le suicide serait la première cause de décès chez les 25-34 ans et la seconde chez les 15-24 ans, Philippe Jamais.
Oui, il y a longtemps que c'est ainsi, oui, bien sûr. C'est d'autant plus qu'il y a des progrès par ailleurs, des maladies, et puis il y a les accidents, dans le même sens. Donc, bien sûr que le suicide est important, mais là encore, c'est les premières fois qu'on le prend en compte comme ça, on a une vision globale. Et ce que vient de dire Patrice Huber me semble très, très important, c'est que face, et on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, je pense, à une situation d'impasse, à partir du moment où j'allais dire de sortie de l'impasse et culturellement proposé, qu'on parle aussi beaucoup du suicide, ça devient aussi, non pas que ça va créer le malaise, mais ça devient, ça facilite ce moyen d'expression parce qu'il est là un peu valorisé, offert par la société aussi. Donc il ne faut pas l'oublier, et puis il faut bien voir que tenter de suicider, ça ne veut pas dire forcément vraiment vouloir mourir, ça veut dire que ce n'est plus tenable et qu'il faut faire quelque chose. Enfin, et malheureusement,
là les chiffres que je vous cite, ce sont ceux qui, hélas, ils sont arrivés tout de même.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils voulaient mourir.
Oui, c'est ça la confusion. C'est d'associer tentative de suicide ou idée suicidaire avec désir ou projet de mort. Je crois que ça arrive bien évidemment dans un certain nombre de cas très lourds où la pathologie joue tout son rôle, mais ce n'est pas la majorité du tout d'entre eux. La plupart auraient plutôt envie de vivre autrement. Et c'est cette question de l'élan vital, où le placer, dans quelle direction, dans une cause extérieure. Et on a malheureusement des exemples contemporains qui montrent cette destinée possible, c'est-à-dire cette énergie vitale qu'en faire dans une société qui n'accueillerait pas la jeunesse telle qu'elle pourrait s'y attendre, vers l'extérieur ou vers soi-même, dans un mouvement justement qui peut s'apparenter à une idée de mort alors qu'il ne s'agirait pas de ça.
Alors que sait-on des facteurs et des motivations, si j'ose dire, qui poussent en tout cas vers le suicide? On accuse beaucoup la société. Est-ce que l'on sait quelle est la part, entre autres justement, de ce malaise social que notait notamment en d'autres temps aussi Boris Cyrulnik et d'autres, Patrice Huber?
Je vais revenir encore bien en arrière, pour ce facteur sociétal, là encore, du temps de Chateaubriand, et un peu après, Balzac disait par exemple qu'il y avait tout se flétrit en France depuis l'Empire sous un régime de vieillards, de chouettes qui ont peur de la lumière et méprisent les nouveaux venus. Avec l'idée que pour ces nouveaux venus, les adolescents de l'époque, quelle offre leur est faite, où mettre leur élan vital, leur énergie de vie. Et c'est dans cette même époque qu'il y a une augmentation de tentatives de suicide, en même temps que d'investissement dans des activités politiques, militantes, etc. C'est-à-dire que ces deux directions ne sont pas opposées l'une à l'autre pour ceux et celles qui ne sont pas dans la pathologie lourde, bien évidemment. Et donc il y a un rapport qui n'est pas un rapport causal. C'est pas parce que la société va mal que tous les adolescents vont se suicider, mais c'est un facteur qui pèse dans la mesure où il s'agit pour eux, à leur âge, de définir ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes et en quoi ça peut servir.
Philippe Jamais ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, je pense qu'il faut bien comprendre que l'adolescence, ce n'est pas une maladie, hein, quand même, on pourrait le croire maintenant, mais enfin, hein, c'est la réponse de la société à ce phénomène naturel, physiologique, qui vient avec la puberté, c'est-à-dire de devoir prendre sa vie en main. Donc vous voyez, c'est un moment aussi où il va falloir sortir de l'enfance, se réapproprier ce qu'on n'a absolument pas choisi, c'est-à-dire notre héritage aussi bien génétique qu'éducatif. Personne n'a choisi ce qu'il est, personne n'a choisi de naître. Et au moment de l'adolescence, au moment où on commence à être conscient de soi, tout d'un coup on nous dit « mais maintenant il va falloir que tu fasses ta vie ». Et que tu te débrouilles sur le plan affectif, sur le plan du métier, que tu ailles vers plus d'autonomie, mais avec quels moyens ? Alors là, vous voyez, une espèce de... Et ça rejoint peut-être l'histoire de votre film. C'est que tout d'un coup, un enfant ou un adolescent se rend compte qu'il a besoin de se réapproprier. Et c'est une mise à l'épreuve de ce qu'il a dans le ventre et de ce qu'il a dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Avec quels moyens ?
Et là, il et ça, comment vous arrivez à le savoir
Là, on a les témoignages directs des adolescents que l'on peut rencontrer, évidemment. Et puis, cet écart qu'il y a entre l'idéal adolescent, qui est un idéal parfois très exigeant, extrêmement fort, et on pourrait dire que les meilleurs d'entre eux, du point de vue de l'investissement de la vie, peuvent être aussi les plus fragiles et les plus vulnérables par rapport au risque suicidaire, s'ils ne trouvent pas dans les circonstances de leur existence de quoi réaliser ces idéaux. Donc là, on a quelque chose... Bon, et puis, ça, c'est un premier groupe. On aura aussi évidemment les adolescents pour lesquels la souffrance actuelle qu'ils éprouvent dans leurs relations interpersonnelles, alors là, les réseaux sociaux vont jouer un rôle très important avec le harcèlement, dans les relations intrafamiliales, dans leurs projets de vie concrets du moment. Tout cela vont être évidemment des personnes plus fragiles que d'autres, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'idée suicidaire qui leur traverserait l'esprit se conclut par un suicide.
Akima Aït El-Kadhi, depuis Avignon, bonjour à vous. On dit que les filles sont plus touchées que les garçons et que dans ce malaise-là qui conduit certains à vouloir se suicider, la question des nouvelles technologies, du numérique, paraît-il, et vient dans un plan très important, vient quasiment au premier plan. De quoi s'agit-il ?
Alors en réalité, les filles sont beaucoup plus concernées par ce qu'on appelle les tentatives de suicide et moins par le suicide, tout simplement parce que vos confrères ont bien mis en exergue le fait qu'elles recouraient davantage à des moyens qui ne conduisaient pas du coup à la mort, contrairement aux jeunes hommes qui, par exemple, prennent volontiers soit l'arme à feu, soit la pendaison, ou d'autres moyens beaucoup plus radicaux. Les filles s'inscrivent davantage dans des conduites que j'ai qualifiées de corposidaires. C'est davantage le corps qui va être le réceptacle et en même temps la paroi d'expression d'un mal-être, d'une souffrance, contrairement aux garçons qui sont, eux, davantage dans des conduites actives de performance. Cette différenciation sexuée, on a pu la mettre en exergue avec David Le Breton depuis plusieurs années. Et lorsque nous avons conduit ces recherches à Strasbourg, il y a plus de 10 ans de cela, il n'y avait pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui fait que l'on retrouve effectivement les filles beaucoup plus enclines à aller dans les modes d'expression qu'offrent les forums, les chats. On a pu mettre en exergue, lorsque j'étais au CNRS à Marseille, combien, notamment dans tout ce qui relevait des conduites alimentaires, à risque alimentaire, et Philippe Jamais est très bien placé pour peut-être le signifier, combien effectivement les sites internet, les blogs venaient quelque part aussi expurger, mettre sur plat une souffrance qui avait du mal à se dire à ce moment-là.
Philippe Jabbé, il faut évidemment évoquer la question sans doute là de l'anorexie chez les filles. Nous évoquerons pudiquement que ce 27 janvier est une drôle de date, hein, une date anniversaire, si j'ose dire, de la mort et du suicide de Solène Poivre d'Arvor que vous avez connu, Philippe Jamais.
Oui, en effet, oui. Donc, effectivement, et cet élément tragique, parce que si vous voulez, derrière tout ça, et je pense que vous serez tout d'accord, il y a une envie de vivre, vous voyez. Tout ça, c'est le fruit de la déception. Il n'y a pas de déception si vous n'attendez pas grand-chose. C'est toujours des gens qui sont dans une grande attente. De justement un grand appétit de vie, que quand il y a la moindre déception, la moindre, enfin des
et
déceptions
et l'anorexie, là quoi, la contrebalance de ça.
Mais tous les troubles, parce que je pense voilà, que actuellement il faut comprendre que tous les troubles dits du comportement, tous les troubles dits psychiatriques, ce sont des réponses à une situation de malaise, à une situation d'impuissance, de sentiment d'impuissance. Ouais. Et il faut reprendre un rôle actif. Il y a quelque chose que je voudrais quand même souligner qui est fondamental pour nous tous. C'est que si, quand on n'est pas fait pour rester impuissant, il y a une réaction quasi biologique de réponse à un sentiment, oui, d'impuissance par une conduite active. Ça peut être la passion, qu'on va voir aussi à l'adolescence, se jeter dans des activités à corps perdu, mais tout ce qui est de l'ordre de la vie. Tout ce qu'on ne peut pas le maîtriser. Là, on n'a pas pu se faire vivre, on ne peut pas se reproduire tout seul, on ne peut pas réussir sans les autres. Par contre, si vous voulez détruire, ça, c'est toujours possible. Et je pense, voyez, que c'est beaucoup plus une réponse de vie, aussi paradoxale que ça puisse paraître, y compris le suicide, qu'un vrai désir de mort, c'est-à-dire se redevenir acteur de sa vie. On n'est jamais sûr de le faire dans le plaisir parce qu'on dépend des autres. On est sûr. Alors bien sûr que ce n'est pas raisonné, mais c'est instinctif. Il faut retrouver un pouvoir. Vous l'avez toujours dans la destruction. Et on ne le voit que pas uniquement la sienne.
À 8h15, la deuxième partie de l'émission sera introduite, bien sûr, comme chaque jour, par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, je voudrais justement introduire ici un concept qui est intraduisible, mais qui a été lancé par un psychologue américain, Martin Seligman, auteur d'un livre assez célèbre en France qui s'appelle « Changer, oui, c'est possible ». Il y avait un autre de ces livres qui était consacré à la dépression et qui s'intitule « Helplessness ». Helplessness, une notion intéressante qui est intraduisible, qui veut dire détresse impuissante, sentiment d'incapacité à s'en sortir. C'est exactement ce que vous disiez à l'instant, Philippe Jamais.
Et ce sera bien sûr le motif de votre chronique tout à l'heure à 8h15. Et rappelons aujourd'hui, pour essayer d'introduire un moment de douceur dans cette journée un peu sombre entre l'anniversaire de l'ouverture des camps, le sujet de ces matins, rappelons que le 27 janvier 1756 à Salzbourg naissait Mozart.